Voilà, ça c'est bien, c'est très très silencieux, c'est formidable, le bienfait des vacances, voilà. Alors, voilà, je propose de prendre un verset très simple dans Éphésiens chapitre 1, c'est un verset que vous connaissez. C'est un verset que je me permets de tirer de son contexte parce que en lui, dans ce verset, il y a le contexte. Vous voyez, il y a des versets extraordinaires dans la Bible qui contiennent le contexte dans lequel ils sont inscrits. Et ça, c'est formidable. En quelque sorte, vous avez un condensé de l'Évangile en lisant ce verset. Donc, il s'agit d'Éphésiens chapitre 1 et verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Très simple. Vous avez entendu la parole. Premier point. Deuxième point, vous avez cru. Et troisième point, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà trois points fondamentaux qui sont importants, n'est-ce pas? La première chose, c'est entendre la parole. Alors, si on regarde dans 1 Jean, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais la première épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean, eh bien, il commence bien sûr en disant ce qui était dès le commencement, mais il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et voilà quelque chose de. Vous allez dire, mais c'est Jean, bien sûr, Jean, il a entendu, il a vu Jésus, il a côtoyé Jésus, donc il l'a touché, etc. Il est en train juste de relater cela. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus. Il n'a pas dit, nous qui avons vu, entendu, touché Jésus, il dit la parole de vie. Et je pense que on doit pouvoir témoigner, n'est-ce pas, de cette grâce d'avoir pu non seulement entendre, mais voir et aussi toucher. Vous savez, si on avait le témoignage de cette femme qui a touché le vêtement de Jésus, eh bien elle dirait, voilà, j'ai touché la parole de vie. Ce serait son témoignage. Pas besoin de longs discours, pas besoin de quelque chose de compliqué. Elle dirait juste, voilà, moi, c'est ce que j'ai vécu, j'ai touché la parole de vie. Je l'ai entendu après et je l'ai vu. Son témoignage, c'est ça. Est-ce que nous avons le même témoignage? On va dire, oui, le Seigneur m'a touché. Non, non, il n'est pas question là, est-ce que le Seigneur t'a touché? C'est est-ce que tu as touché le Seigneur? Est-ce que tu as vu le Seigneur? Est-ce que tu as entendu le Seigneur? Alors vous allez dire, entendre, je veux bien, voir, c'est plus difficile à comprendre, et toucher, c'est incompréhensible. Mais s'il y a quelque chose qui va ensemble, il y a les trois qui vont ensemble, n'est-ce pas? Quand on touche le Seigneur, on est transformé. C'est ce que cette femme a vécu. Quand on entend véritablement les paroles du Seigneur, est-ce que les paroles du Seigneur sont adressées à notre cœur, à nos vies, de manière directe et personnelle? Ou est-ce que juste on s'est converti par sympathie? Et c'est une vraie question fondamentale. Est-ce que c'était émotionnel? Est-ce que c'était affectif? Est-ce que c'était juste par sympathie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a touché notre cœur, qui a travaillé notre cœur, qui a fait qu'on a touché nous-mêmes le Seigneur, qu'on a entendu sa parole et qu'on a vu la parole de vie? J'aimerais qu'on considère un passage que vous pouvez lire chez vous, qui est dans Ézéchiel chapitre 37, un merveilleux passage, qui va faire état du fait d'entendre la voix du Seigneur. Et dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, le prophète est amené en vision dans la vallée des ossements. C'est un passage qu'on connaît, qui est facile à comprendre, qu'on connaît, qu'on a déjà entendu, mais il faut le relire, n'est-ce pas? Il est dans la vallée des ossements et tout ce qu'il voit, ce sont des os, c'est desséchés. Et le Seigneur lui pose une question. Et je voudrais dire ce matin qu'il pose la même question à chacun d'entre nous. Est-ce que ces os peuvent revivre? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut intervenir dans la vie de quelqu'un qui est totalement mort spirituellement? Ou est-ce qu'on est dans une attitude qui consiste à dire, voilà, c'est quelqu'un qui a un profil chrétien ou qui est très touché par les choses spirituelles, donc ça risque à l'intéresser l'évangile et il y a plus de chances que cette personne soit sauvée. Moi, je crois le contraire, souvent. Quand les gens disent, est-ce que j'ai droit de venir? Moi, je suis un pécheur, j'ai fait tout ce qui est contraire à la religion. J'ai envie de dire à ces gens, eh bien, c'est justement vous qui êtes sollicités, c'est vous qui êtes appelés. Le Seigneur est tout puissant et c'est des miracles qu'il fait. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est bon depuis son enfance, qu'il n'a pas fait de mal, eh bien, quelquefois, il devient chrétien dans une sorte de continuité logique. Mais en fait, il ne devient pas chrétien réellement, parce qu'il n'est pas passé forcément par la nouvelle naissance. Je sais que ça a été un grand problème dans ma vie, quand j'étais adolescent, quand j'entendais des témoignages de gens qui avaient une vie totalement bouleversée, n'est-ce pas? Et moi, je me disais, mais voilà, est-ce que moi, c'est la même chose? Est-ce que c'est aussi fort? Et il a fallu le témoignage du Saint-Esprit, il a fallu l'œuvre de Dieu dans ma vie pour que je comprenne que j'étais pécheur autant que les autres. Et que le salut, eh bien, était pour moi autant que pour les autres. Et ici, devant cette vision d'une vallée d'ossements desséchés, eh bien, il fallait avoir la foi que Dieu allait faire un miracle. Dieu lui a dit, est-ce que ces os peuvent revivre? Ézéchiel a très bien répondu. Il a dit, Seigneur éternel, toi tu le sais. Moi, je ne réponds pas. Seigneur, toi tu sais. Le problème, c'est que nous disons souvent, Seigneur, je sais. Je sais que tu peux faire ceci, je sais que tu vas faire cela, je sais que ceci. Mais Ézéchiel était prudent, il a dit, Seigneur, toi tu le sais. Et Dieu a commencé à faire ce miracle devant lui. Il a fait ce miracle de commencer à mettre des nerfs, n'est-ce pas, sur ses os, de rassembler les os, de mettre des nerfs, de la peau. Et ensuite de donner son esprit, son souffle, pour que cette armée se lève et réponde à l'appel de Dieu. Mais ces eaux desséchées ont entendu la voix. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'oreilles, il n'y a pas besoin de cerveau. La parole de Dieu est extraordinaire. Vous voyez, il a parlé à la mer, Jésus. La mer était déchaînée, il a dit « Silence, tais-toi ». Il a parlé aux éléments, n'est-ce pas? Et les éléments n'ont pas dit « Ah, 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 il est en train de parler, il faut qu'on réponde ». Ils n'ont pas de cerveau, les éléments. Mais ils sont sous l'autorité de la toute-puissance de Jésus. Est-ce que dans nos vies, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut témoigner qu'on a entendu la parole de Dieu qui nous a dit « Voilà, oui, je veux qu'il y ait la vie ». Il a demandé à Ézéchiel de prier, d'invoquer le Saint-Esprit, pour que l'Esprit vienne souffler le souffle en eux et que cette armée puisse revivre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le vœu de nos cœurs, n'est-ce pas, pour cette ville d'Hazebrouck, pour ses environs, pour les gens que l'on connaît qui ne sont pas au Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne et aussi desséché que soit leur vie spirituelle, qu'ils puissent connaître ce réveil, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous, d'abord, nous l'avons connu? Est-ce que dans les domaines de la vie où nous sommes secs, n'est-ce pas? Peut-être ce matin, vous sentez sec. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est mort. Eh bien, je suis sûr que le Seigneur a cette parole de vie pour vous. Et donc ça, c'est quelqu'un qui a entendu. Vous savez que Lazare, dans le tombeau, il a aussi entendu la voix du Seigneur. Il était mort, donc un mort ne peut pas entendre. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que Dieu est le Dieu des miracles. Vous allez dire, mon voisin, il ne peut pas entendre. Impossible. C'est une tête de mule, il ne peut pas comprendre du tout quoi que ce soit. Si on lui parle de l'évangile, il ne comprend rien. C'est précisément là que le Seigneur peut agir. Il ne peut pas vous entendre, vous, mais il peut entendre la voix du Seigneur. Et on veut cela. On voudrait que dans cette ville, il y ait des hommes et des femmes qui entendent la voix du Seigneur, qui sont à mille lieues de chercher Dieu peut-être, mais qui vont venir le week-end du 15-16 septembre dans cette salle. Peut-être pour se moquer, peut-être pour voir un rassemblement de fous. Vous savez qu'on est fous, hein, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 1, n'est-ce pas ? Parce que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Eh bien, s'ils viennent pour ça, c'est formidable. Je me rappelle le témoignage d'un gars qui était allé dans une convention chrétienne pour semer la panique. Il voulait créer des histoires et perturber tout le rassemblement. Et finalement, c'est lui qui a été perturbé. Et le rassemblement s'est très bien passé, merci. Et c'est lui qui s'est converti. Il a été perturbé à l'intérieur. Il y a d'autres témoignages comme ça, même de gens qui avaient décidé des actes terroristes contre des rassemblements chrétiens dans certains pays, qui ont été les premiers à répondre à l'appel de Dieu. Parce que la voix de Dieu, parce que l'appel de Jésus, la parole de Jésus est toute puissante. Il y a, si vous lisez Ephésiens chapitre 1 complètement, vous voyez que la plénitude, la puissance de Dieu, il est dit qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout pouvoir, de toute puissance. Ça qui est bien, il est dit autorité, pouvoir et puissance. Comme ça, on met tout vraiment dedans. Parce qu'il y a des gens qui discutent entre pouvoir et autorité, la différence. Mais là, pouvoir, autorité et puissance, il est au-dessus de tout. Il est la tête de l'Église. Et ce n'est pas parce qu'un système est fort, parce qu'une idéologie est forte dans la tête de quelqu'un, que Dieu ne peut pas renverser les murailles. Et on va prier pour ça, n'est-ce pas ? On va prier pour ce week-end du 15-16 où nous ouvrons les portes, et bien qu'il y ait des murailles qui tombent, qu'il y ait l'Esprit de Dieu qui réveille des gens qui sont desséchés et morts. Voilà cette œuvre. Et ce n'est pas fini. Parce que quand Ézéchiel a vu ce miracle sous ses yeux, Dieu lui a demandé autre chose. Dieu demandait à Ézéchiel énormément de choses, comme à Isaïe, comme à Jérémie. Et c'était les prophètes qui obéissaient. Parce que bon, Jérémie il disait, oh, moi je ne voulais pas être prophète, je ne voulais pas être pasteur, et tu m'as choisi, tu m'as obligé à faire ça. Mais le Seigneur veut nous utiliser. Et Ézéchiel répondait à toutes les exigences de Dieu, quelles qu'elles soient. Et l'exigence que Dieu lui a donnée après ça, il a dit, écris sur un bout de bois, que écrit donc maison de Joseph ou descendance de Joseph ou tribu de Joseph par Éphraïm, vous savez qui était un des fils de Joseph. Et sur l'autre bois, tu vas mettre maison de Juda et tu vas rassembler les deux en un seul tas dans ta main. Tu vas prendre les deux morceaux de bois et tu vas les mettre dans ta main. Et quand le peuple te dira, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tu prophétiseras que ça veut dire que l'Éternel veut rassembler son peuple en un seul peuple et que ce sera David qui sera leur roi. Eh bien, on voit ce qui suit le miracle de la résurrection, le miracle du salut, le miracle de ces eaux qui commencent à revivre. Eh bien, c'est que le Seigneur va créer un miracle d'unité. Pas seulement d'unité entre chrétiens, bien que ce soit le cas, et c'est important. S'il n'y a pas cette unité dans votre cœur vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis des chrétiens, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas revisité par Dieu, qui n'a pas été visité par Dieu. Il doit y avoir cet amour, cette unité, et s'il y a une discorde quelconque, on doit chercher à ce que ça soit résolu immédiatement, pour que ce soit du passé, que ce ne soit plus un problème. Mais voilà que c'était le symbole merveilleux que Ézéchiel devait tenir. Et regardez, c'est étrange. Parce que Dieu lui a dit d'écrire pour la maison d'Éphraïm, qui correspond à la maison de Joseph, je paraphrase. Et dans l'autre, c'est pour la maison de Juda. Mais Joseph, vous connaissez son histoire. C'est un précurseur, c'est celui qui annonce Jésus-Christ. Parce que sa vie, depuis le départ, eh bien, semblait tragique. Il a vécu des choses incroyablement tristes. Il a été vendu, trahi par ses frères. Ses frères étaient jaloux, etc. Ils l'ont vendu, il a été esclave, etc. Et Il ne savait pas, vraisemblablement, mais il était l'image de Christ. Et Joseph, en quelque sorte, est un des premiers personnages dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, qui représente le Christ, qui représente Jésus. Et Judas représenterait le peuple, représenterait les individus, les membres d'Israël, le reste d'Israël. Et ce que je voudrais juste dire, ce qu'on en trouve dans Éphésiens chapitre 1, c'est que lorsque on entend la parole de Dieu qui nous fait revivre, qui nous fait vivre, eh bien, il nous unit, non seulement les uns aux autres, comme je disais, mais il nous unit à Christ. Et ce chapitre 1 de Éphésiens finit en disant que Christ, alors il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire qu'il nous unit à Christ, c'est la deuxième étape qui va faire que l'on va arriver au fait de croire réellement. Comment il nous unit à Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a conscience de ce que ça veut dire que d'être uni à Christ? Est-ce qu'on a conscience de ce que ça veut dire que d'avoir pour tête le Christ, pour chef le Christ? Ça veut dire que nos vies, nous sommes le corps de Christ sur la terre. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, doit diriger notre corps, de sorte à ce que notre vie ne soit que la manifestation de ce que Dieu veut sur la terre. Il y en a qui ont connu ça parfaitement. Mais vous savez que c'est l'appel pour chaque chrétien. Cette unité avec Christ, l'Église est unie avec Christ, mais individuellement, nous constituons l'Église, nous représentons l'Église. Eh bien, ça doit être parfaitement vécu. Dans le couple, l'apôtre Paul dit que la femme doit prendre ce rôle de l'Église. Le mari doit prendre ce rôle de Christ. Ce n'est pas qu'il doit jouer le rôle. Vous savez que jouer le rôle, le terme grec, c'est hypocrite. Donc, si vous jouez le rôle de Christ, et si la femme joue le rôle au sein du couple, au sein de la vie conjugale, joue le rôle de l'Église, elle est hypocrite, il est hypocrite. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit de prendre ce rôle que Dieu donne, de dire voilà, oui, je le prends. C'est une décision personnelle. Et si la femme insulte son mari, elle insulte Christ. S'il remplit ce rôle de Christ dans le monde. Vous comprenez? Il y a des femmes qui parlent très mal à leur mari. Eh bien, il faut savoir que c'est à Christ qu'elles le font. Vous savez que Jésus a dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses petits, c'est à moi que vous le donnez. Et si vous refusez de donner à l'un de ses petits, c'est à moi que vous refusez. Ce que l'on fait vis-à-vis des autres, ce que l'on refuse, ce que l'on dit, si vous insultez un frère, une sœur dans l'Église, vous insultez Christ. Vous allez dire, jamais j'ai insulté Christ. Jésus a dit, les gens diront, mais quand avons-nous vu ayant soif, etc., ayant eu faim? Et le Seigneur dit, c'est à chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ses plus petits. Quand le mari maltraite sa femme, quand le mari n'a pas d'égard, de douceur, ne représente pas Christ vis-à-vis de ça, il insulte Christ. Et ça, on doit réfléchir. On est en train de vivre avec une culture particulière, certes, qui nous est imposée, mais on est obligé de réfléchir sur ces choses-là et de vivre cela. Et c'est la même chose en communauté. Dans l'Église, nous représentons le corps de Christ. Et si on maltraite un frère, une sœur, si on a du mépris, si on a de la haine, si on a de la rancœur, eh bien c'est contre Jésus qu'on a cette rancœur, ce mépris. Et ça doit nous interpeller. Parce qu'il y a une unité, il y a quelque chose. Et c'était symbolique pour Ézéchiel, il a fait ça. Ézéchiel n'a pas dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu veux que je prenne deux bouts de bois? Est-ce que je ne peux pas prendre deux bouts de métal plutôt, ou quelque chose qui dure plus longtemps? Le Seigneur lui a dit du bois, il lui a dit d'écrire quelque chose, il n'a pas commencé à dire, mais pourquoi je dois écrire ça, Seigneur? On est toujours en train de dire, mais pourquoi tu veux faire ça? où Ézéchiel n'est pas rentré chez lui en disant à sa femme, c'est drôle, j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a demandé ça, mais je crois finalement que c'est psychologique. Je crois que c'est une impression que j'ai. Non, il a obéi au Seigneur, il a fait ce que le Seigneur lui dit. Et il a uni, et c'était une valeur symbolique. Et c'est très important de savoir que si le Seigneur nous donne quelquefois des rôles symboliques, eh bien c'est parce qu'il a un message dans l'histoire. On l'a vu à l'étude biblique, mardi soir dernier, que lorsque Abraham a commencé le sacrifice de son fils, qui n'a pas eu lieu, bien sûr, Dieu n'a pas permis cela, eh bien ça avait une valeur symbolique, ça parlait, n'est-ce pas? C'était une parole de Dieu prophétique de quelque chose qui allait se passer bien plus tard avec Dieu. Et donc cette unité entre Christ, entre la tête et l'Église, entre Joseph et le reste du peuple, eh bien, ça peut être pris comme une image, comme une allégorie de cette unité qui existerait par le Saint-Esprit lorsque quelqu'un a reçu vraiment la nouvelle naissance, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur. Vous voyez, il n'est pas question ici de croire puis entendre. Il est question d'entendre d'abord, comme il a été dit ce matin. Et dans Romains 10, vous connaissez cette parole, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc voilà, ici. Donc le premier point était entendre ou voir ou toucher. Maintenant, le deuxième point, c'est vous avez cru. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Alors j'étais content que Emmanuel ait commencé le culte avec cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Oui, je crois. On a lu mardi dernier encore à l'étude biblique que les démons croient et ils tremblent. Donc, on sait que croire peut prendre beaucoup de sens, n'est-ce pas? Eh bien, on a une excellente définition de ce que c'est croire ou avoir la foi. Dans Hébreux 11, bien sûr, vous connaissez tous ce passage, mais il ne faut pas seulement le connaître, il faut juste réfléchir sur les mots et sur la traduction, et c'est assez extraordinaire. Et ce que je retiens dans Hébreux 11, dans la définition de la foi au verset 1, c'est que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que les athées ont la foi, incontestablement, parce qu'ils ont une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Quand vous voyez un athée, vous le voyez vous lui, mais vous ne savez pas ce qu'il vit à l'intérieur. Or, il ne croit pas en Dieu, et ça doit se voir dans son comportement, ses attitudes. Et souvent, ça se voit bien. Ce que Dieu apprécie, c'est la cohérence, c'est la vérité. C'est qu'il y a cohérence entre ce qui est dit de la part de l'athée et ce qui est vécu, ce qui est manifesté. Le chrétien dit « moi j'ai la foi ». Et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire « j'ai Dieu en moi, j'ai Jésus-Christ qui est dans ma vie ». Ça ne se voit pas. C'est pas, je ne peux pas voir, parce que c'est allégorique aussi de dire « en soi », etc. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne devrais pas dire allégorique, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Nous, on voit ce qui est matière, n'est-ce pas, ce qui reflète la lumière. Eh bien, je ne peux pas voir Christ à l'intérieur de vos vies, mais ça doit se voir dans vos comportements et vos attitudes. Et c'est ça, la foi. Si vous avez la foi, vous avez la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la question n'est pas est-ce que vous avez la foi dans la tête, ça n'a rien à voir avec ça, c'est est-ce que vous avez la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors dites-moi si vous êtes croyant en Dieu, je ne vois pas Dieu, mais je dois avoir la démonstration de Dieu au travers de vous. Et ça, c'est quelque chose qui se fait après la rencontre avec Dieu. Bien sûr, je sais qu'il est dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Mais c'est l'œuvre instantanée de Jésus, lorsqu'il a prononcé la parole de vie, lorsque les eaux desséchées ont repris vie, c'est l'œuvre instantanée de mettre la foi, c'est-à-dire la démonstration de ce qu'on ne voit pas, dans nos vies. Autrement dit, en observant, c'est un arbre, c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre, n'est-ce pas? En observant la vie personnelle, intime d'une personne, on peut savoir si elle a la foi. Pas si elle le dit ou pas, parce que ça c'est facile de dire j'ai la foi ou j'ai pas la foi, Et de toute façon, ça ne veut rien dire, parce que si on est athée, on a la foi que Dieu n'existe pas. Mais l'athée a la démonstration généralement que Dieu n'est pas en lui. Le croyant a-t-il la démonstration? Et c'est une question fondamentale. Est-ce que nous avons la démonstration que Dieu habite en nous? Est-ce que autour de nous, les gens seraient surpris d'apprendre qu'on est croyant? Est-ce que, ou est-ce qu'ils diraient, ben, ça ne m'étonne pas. Je l'aurais deviné, ou je l'ai même deviné sans qu'ils me le disent. Vous savez, beaucoup du discours verbal qu'on doit avoir, nous évangéliques, c'est dû au fait qu'il n'y a pas la démonstration par ailleurs. Donc il faut convaincre par la parole, n'est-ce pas? Les politiciens savent, je les respecte, je respecte beaucoup, mais quand ils n'ont pas d'argument, ils essayent de convaincre par la parole, parce qu'ils n'ont pas de démonstration concrète que c'est possible. Vous savez, ils promettent un monde, une situation économique qui va aller en améliorant, etc. Ils n'ont pas de moyens de faire la démonstration. Donc, ils assomment de paroles, disant « ça sera comme ça, ça sera comme ça ». Et souvent, on doit utiliser les paroles parce qu'il y a quelque chose qui fait défaut au niveau de la démonstration. Mais est-ce qu'on a la démonstration de l'amour de Christ, de la vie de Christ? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent changer quand on rencontre Christ. Est-ce que ces eaux desséchées avaient l'air des eaux desséchées après? Non. Jésus a dit que le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça veut dire que si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, eh bien, on ne sait pas d'où vous venez et on ne sait pas où vous allez. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que quand on voit la personne, on devrait dire, mais c'est quelqu'un qui vient du ciel. Non, non, je ne viens pas du ciel. Je suis né dans les bas-fonds de telle ville ou je suis né dans telle ville, etc. J'ai grandi en étant pécheur et un jour j'ai été sauvé. Mais on ne peut pas le voir, n'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas transformés par l'Esprit de Dieu, généralement, on arrive à deviner assez facilement d'où ils viennent et où ils vont. Mais avec l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui est transformé, qui est radical. De sorte à ce qu'en voyant la personne maintenant, on peut dire, mais c'est pas possible qu'elle était comme ça avant. Je ne peux pas croire. Donc, si vous aviez, je ne sais pas, problème dans un domaine quelconque de votre vie et que maintenant vous ne l'avez plus, eh bien, si vous dites à une personne, voilà, j'étais comme ça avant, on va dire non, c'est pas vrai. Je ne peux pas croire. Ça, c'est bon signe. Mais le problème, c'est que nous, souvent, on est en train de dire j'ai toujours été comme ça. Mes parents ont été comme ça. Mes grands-parents étaient comme ça. Au lieu d'avoir la démonstration, la foi, qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, l'Esprit de Dieu va mettre la foi dans nos cœurs. Une fois que nous avons entendu ou vu ou toucher la parole de vie. Il met la foi dans nos cœurs, dans nos vies, la démonstration. Et c'est quelque chose qui parle aux autres. En fait, c'est ça qui parle aux autres. Si on faisait une étude, ça serait très intéressant de savoir ce qui a touché les gens et qui les a poussés à la repentance. Je crois que dans bien des cas, ce ne sont pas des paroles qui ont été prononcées, ce n'est pas un discours qui a été fait, c'est de voir la vie des hommes et des femmes qui témoignaient de cela, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vous avez cru, donc vous avez entendu, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Alors, quelquefois c'est mal traduit ça, parce que j'ai regardé dans le grec. Je ne parle pas le grec du tout, mais on est avec Internet, on a tellement d'avantages. Alors, c'est grec et anglais, donc en dessous, il y a la traduction littérale en anglais. Donc, ce n'est pas du bon anglais, mais c'est traduit mot par mot du grec. Ça nous permet d'avoir le sens. Parce que quelquefois, ici, ce n'est pas trop mal, un gage de notre héritage. Mais quelquefois, on a l'impression, c'est qu'on a reçu un peu du Saint-Esprit, qui est vrai. C'est aussi le sens, parce que dans 2 Corinthiens, il y a deux endroits où il est question de cela. Chapitre 1 et chapitre 5, où on a reçu une part, un acompte J'ai vu ça dans une traduction, acompte, c'est bien, du Saint-Esprit. Et qu'on va recevoir la plénitude du Saint-Esprit après la mort, c'est-à-dire dans le ciel, n'est-ce pas? Il y a probablement cette vérité. Mais cette vérité peut nous dire, voilà, on a reçu un peu du Saint-Esprit. Et on va recevoir totalement après la mort dans le ciel. Et donc on vit avec un peu du Saint-Esprit sur la terre. Mais avec le Seigneur, je ne connais pas beaucoup de un peu. C'est pas le genre du Seigneur. Vous savez, quand il a fait la distribution des pains, la multiplication des pains et des poissons, il n'a pas dit aux gens, faut pas gaspiller, vous prenez une demi-tranche de pain et vous partagez avec votre voisin. Il a multiplié, je suis sûr qu'il y avait des gens qui étaient obèses dedans, il y en avait beaucoup moins que maintenant, on est d'accord. Le Seigneur les a mis au régime sain, d'accord, du poisson et du pain. D'accord. Il y a des gens ici qui diraient, moi, j'aurais pas aimé, j'aurais préféré que ce soit des steak frites ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'était ça. Mais il y en avait autant qu'on voulait et il y avait des paniers remplis. Les deux fois où il a fait le miracle, il y avait le panier rempli. Le Seigneur est le Dieu de l'abondance, il remplit. Et dans ce chapitre et dans d'autres endroits des écrits de l'apôtre Paul, il est question de la plénitude de Dieu. Il nous fait rentrer dans toute la plénitude. Il nous donne la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui caractérise le fait de ne pas avoir l'Esprit de Dieu, c'est le manque. La plupart des problèmes sont liés au manque. La drogue entraîne le manque, n'est-ce pas ? Ça entraîne un déséquilibre au niveau biologique, au niveau biochimique du cerveau, qui suscite le manque. C'est pour ça que les personnes sont obligées de retourner vers la drogue. L'alcoolisme fait la même chose, le tabac fait la même chose. Toutes les dépendances sont basées sur le manque. Et le Seigneur ne donne pas de manque, il donne la plénitude, il remplit. N'est-ce pas ? Le psalmiste du psaume qu'on connaît bien, le psaume 23, nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien, je ne serai jamais en manque de quelque chose. Et ce qui caractérise l'époque du XXIe siècle en Occident, c'est le manque. Le manque d'affection. Ça concerne une immense majorité de gens ici et autour de nous, le manque d'affection. Et la souffrance qui est manifestée à cause de ça, soit parce que les parents n'ont pas donné l'affection qu'ils devaient, soit parce que la personne ne reçoit pas l'affection qu'elle devrait avoir, ça crée un manque. Et ce manque dirige nos vies, parce que le manque fait appel, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire, c'est un mécanisme automatique, c'est biologique. Si vous manquez quelque chose, si vous manquez du sucre dans le sang, il y a quelque chose qui vous dirige vers la nourriture sucrée. Les animaux, c'est comme ça, ils ont pas lu, hein, ils n'ont pas Internet, ils ont un manque de quelque chose, ils vont le trouver, si c'est disponible dans la nature, ils vont le trouver. C'est extraordinaire. Le corps est téléguidé vers ce qu'il faut, pour remplir ce manque. Si vous avez un manque, c'est normal. Si vous avez un manque, c'est normal que vous ayez des dépendances. Ce n'est pas la dépendance qu'il faut enlever, c'est le manque. Le problème, c'est qu'on cible sur la dépendance. On fait état de la dépendance. On est en train d'avoir des thérapies autour de la dépendance. On est en train de dire aux gens, voilà, il faut que vous parliez de votre dépendance. Mais c'est le manque qui est à l'origine de ça. Le manque d'affection entraîne beaucoup de comportements qui sont en recherche de l'affection, qui font qu'on recherche l'affection. Et le Seigneur est celui qui nous fait dire « je ne manquerai de rien ». Il nous donne. Le Seigneur donne. L'Esprit de Dieu donne. Il est là pour donner. N'est-ce pas ? On n'est pas... Le verset qu'on connaît le mieux, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Parce qu'on aime, on donne. Il y a quelque chose, voilà, de logique. Si on aime, on donne. Et on donne gratuitement, évidemment. Il a donné son Fils unique gratuitement, évidemment. Donc le Seigneur veut remplir les manques et le Saint-Esprit veut remplir les manques. Les gens disent non, 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 c'est pas vrai, il y a des luttes, il y a des manques, il y a des appels, il y a des dépendances toute la vie, il faut juste lutter et tenir le coup jusqu'à la mort. Et si on a réussi, on est sauvé. C'est l'Ancien Testament. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y avait les manques. Mais les manques ne devaient pas se manifester par des comportements qui étaient prohibés par Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a l'Esprit de Dieu qui est là à la disposition, de sorte à ce que nous ayons cette plénitude de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans nos vies. C'est ça le message. Sinon, je n'arrive pas. J'ai essayé de comprendre le sens de l'Évangile, le sens de la mort de Jésus sur la croix, si c'est pour continuer à lutter contre des manques. C'est l'ancienne alliance, où il fallait réparer les fois où on avait dévié. C'est l'ancienne alliance où il fallait s'abstenir même de choses, n'est-ce pas, de lutter pour ne pas faire concrètement. On pouvait avoir de la haine contre quelqu'un dans le cœur, mais il fallait surtout pas le frapper, parce que là, il y aurait un jugement, parce que c'était devenu visible. C'est sur ça que la société française se bat. On a un système qui est une justice qui est juste. On a ce privilège. Mais c'est basé sur le fait réel. Vous pouvez tuer quelqu'un avec la langue sans aucun problème. Vous avez le droit de calomnier sur cette personne autant que vous voulez, jusqu'à ce qu'elle se suicide, vous ne serez pas inquiété. Mais si vous tuez la personne avec un couteau ou un revolver, vous serez en prison. On juge sur ce qui se voit, n'est-ce pas? Mais dans le Sermon sur la montagne, il est clairement dit que c'est ce qui se passe dans le cœur qui est déjà le péché, n'est-ce pas? Bien avant la manifestation, ou même si la manifestation ne se fait pas, c'est ce qui est dans le cœur. Et là, on a besoin du Saint-Esprit, parce que ça veut dire qu'on est pécheur avant d'être pécheur selon l'Ancienne Alliance. Et on a besoin du Saint-Esprit. Et là, il nous a scellés du Saint-Esprit. Il a mis son sceau. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre un sceau? Eh bien, mettre un sceau, ça veut dire que c'est fermé. Et il y a le cachet de celui qui l'a fermé, de sorte à ce qu'on ne puisse pas ouvrir, parce que ça serait violer le sceau, et c'est impossible de violer le sceau de Dieu. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est fermé à tout autre pouvoir, à toute autre autorité, à toute autre puissance. Vous allez dire, mais ce n'est pas du tout ce que je vis. C'est vrai que probablement on vit assez loin de ça, mais c'est ça l'Évangile. Et tant qu'on n'a pas cherché et rencontré l'Évangile, on va vivre dans des luttes et dans des manques. On va vivre sans le sceau du Saint-Esprit, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans nos vies. Alors que l'Esprit de Dieu voulait mettre son sceau pour que ça ne soit pas ouvert, notre vie, à tous les autres vents, à toutes les autres influences. Mais qu'en est-il? Eh bien, si Christ est la tête et nous sommes le corps n'acquiert pas tous les comportements tout de suite. Le corps doit apprendre. Et vous savez qu'il y a plein de comportements que vous pouvez faire que vous ne faites pas, que vous ne savez pas faire, parce que vous n'avez jamais utilisé votre cerveau pour le faire. Il y a des gens qui disent, moi, les maths, je ne comprends rien, je n'ai jamais réussi. Et puis quand ils ont un prof qui arrive à être très bon pédagogue, ils trouvent que c'est passionnant les maths, et ils commencent à aimer les maths et à faire des maths sans arrêt. Il y a des comportements, c'est trop tard pour certains d'entre nous dont je fais partie, des comportements de souplesse, des comportements sportifs, que notre cerveau avait la capacité un jour, qu'il a perdu d'ailleurs, après un certain temps il le perd, il avait la capacité de commander notre corps pour que nous fassions cela. C'est possible, mais on ne l'a jamais exploité, donc c'est perdu à vie. Vous prenez un enfant de 4 ans et vous l'éduquez à faire de la gymnastique, de faire du sport. Moi, quand j'ai regardé le mondial de foot, j'étais surpris de voir comment ils arrivent à maîtriser ce ballon. Mais je ne sais pas comment ils arrivent à faire. Moi, si j'essaye, c'est une catastrophe. Comment ils arrivent de passer la balle en travers les adversaires? Mais c'est le cerveau qui fait ça parce qu'ils sont entraînés depuis leur enfance. Rien d'extraordinaire, rien de miraculeux. C'est juste qu'ils ont laissé le cerveau diriger leur corps, corriger leur corps pour que cela soit possible. Et c'est devenu possible. Si vous instruisez l'enfant dans la connaissance du monde dès qu'il est très jeune, ça sera un érudit. Parce que vous entraînez son cerveau à apprendre des choses. Et voilà, il va utiliser. Si vous n'utilisez pas du tout le cerveau de l'enfant, vous le laissez à lui-même, vous le mettez dans un environnement très pauvre sur le plan des simulations, eh bien son cerveau va s'appauvrir. C'est ce qui est arrivé avec les enfants issus de la politique de Ceausescu en Roumanie, où les enfants étaient laissés dans les orphelinats et ils souffraient d'hospitalisme et de dégénérescence. Donc on a là l'enseignement à la fin de cet Éphésiens chapitre 1, c'est que Christ, on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu la plénitude de Saint-Esprit, mais cette plénitude, elle est là comme le cerveau d'un enfant de l'époque de Ceausescu. Le cerveau était le même au départ que celui d'un enfant qui est élevé dans un milieu privilégié et qui sera hyper stimulé. Mais dans un cas, le cerveau ne peut pas agir sur le corps parce qu'il n'est pas, on ne le fait pas agir sur le corps. Et dans l'autre, le cerveau agit sur le corps. Et c'est la même chose. Vous avez reçu la plénitude de Dieu. Vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit. Bien sûr, si vous avez reçu une plénitude, il y a une plénitude beaucoup plus grande, n'est-ce pas, qui vous attend dans le ciel. Vous allez dire, c'est pas possible. Si c'est infini ce qu'on reçoit, on ne peut pas avoir un infini qui est plus grand que l'infini. Eh bien, si, bien sûr. Ceux qui aiment les maths, mais bien que ce soit très élémentaire, eh bien, si vous prenez l'intervalle 0,1 dans les réels, dans l'ensemble des réels, eh bien, il est infini, n'est-ce pas? Mais c'est un tout petit intervalle à l'intérieur de R. C'est un infini qui est tout petit par rapport à l'infini. Donc voilà, l'infini nous parle de manière difficile à comprendre parfois. Mais en tout cas, on sait qu'avec Dieu, c'est comme ça. Mais il faut exercer. Il faut que le cerveau puisse exercer son pouvoir sur le corps. Et ça, c'est à nous de laisser l'Esprit de Dieu le faire. Si le corps prend le contrôle et dit non, 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 c'est mon corps, c'est moi-même, donc je m'en occupe, le cerveau qui est Christ ne va pas intervenir. Mais la tête suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ et c'est lui qui nous dirige. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les anciens qui dirigeons. J'espère que vous remarquez qu'on ne vous donne pas d'injonction, ou rarement. On ne va pas vous voir en disant, il faudra que ça change un peu. On le fait quand on le doit. On le doit parfois, mais il y a très peu de gens ici qui peuvent dire qu'on est allé les voir et dire, il faut que ça change. Bon, la question c'est que si nous on dit ça, on devient votre tête. On dirige votre corps. On n'est pas là pour ça. Vous savez, c'est terrible, parce que j'ai réfléchi à l'image du bon berger. La dernière fois, j'ai prêché sur le bon berger. J'ai réfléchi à l'image. J'ai dit, le bon berger, c'est Jésus. Les gens de l'Église, c'est les moutons. Donc nous, on est les chiens, alors. Les chiens qui tournent autour des moutons, vous savez. Déjà, ça correspond bien aux anciens, parce qu'ils tournent en rond. Vous avez regardé, les chiens de berger, ils tournent en rond tout le temps. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a l'impression de faire parfois, tourner en rond. Mais en fait, c'est ça, c'est un rôle de superviseur, le rôle d'ancien. Ce n'est pas un rôle de directeur. Ce n'est pas un rôle de contrôleur. C'est un rôle de superviseur, c'est-à-dire, voilà, c'est celui qui est à la piscine, qui est le garde, le maître nageur, qui est sur un siège élevé, non pas parce pour être glorifié, mais parce qu'il voit mieux. Et qui doit intervenir dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin, et dans la mesure où la personne ne s'expose pas, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est pas lui qui peut intervenir forcément. Mais c'est le rôle du maître nageur. Et le chien du troupeau va autour, et quand il voit qu'il y en a une qui s'égare un petit peu, il ne dit rien, mais il fait le tour, comme ça, elle se rapproche. Voilà. Donc on est des chiens. Mais le Seigneur agit comme ça. C'est le Seigneur qui est la tête de l'Église. C'est le Seigneur qui doit être la tête de nos vies. Et qu'il en soit ainsi. Que vraiment, ce matin, on puisse dire, voilà Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je l'ai entendu il y a longtemps. Ah, ça c'est quelque chose que je connais. Je l'ai entendu il y a longtemps. Je t'ai vu il y a longtemps. Je t'ai touché il y a longtemps. Mais ce matin, je voudrais entendre à nouveau. Est-ce que vous croyez que si vous êtes sincère, le Seigneur va dire non? Enfin, vous connaissez le Seigneur, vous aussi, nous aussi, moi. Je sais qu'il ne peut pas dire ça. Je connais son cœur de père qui va être touché. Et même s'il avait décidé, non, ça suffit. Elle a eu assez d'avertissements. Je sais qu'il se laisse fléchir. Et ce matin, vous pouvez demander, Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Je veux te voir. Je veux te toucher. C'est la première étape. Et la suite est logique. Il va mettre la foi dans vos cœurs. La foi, ce sera cette démonstration. On va venir, vous allez rentrer dans la salle la semaine prochaine, et on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez dire, mais voilà, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a touché. Et ensuite, il va vous sceller de son Saint-Esprit. S'il y a des choses qui sont mal scellées, qui sont mal fermées, enfin, c'est pas mal scellé, ça peut être scellé ou pas, eh bien, il va mettre le sceau de l'Esprit. Ça veut dire, on n'y touche pas. Interdiction d'y toucher. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucune autorité. Vous allez dire, mais mon patron, il influence ma vie ou mon enfance. On m'a dit tellement de choses, ces paroles méchantes que j'ai entendues, je les entends toujours, ça résonne dans ma tête. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça, etc. Le Seigneur veut sceller votre vie de sorte à ce que ses pouvoirs, ses puissances, ses autorités n'aient plus accès à votre vie. Pas avoir accès à l'extérieur de votre vie. Mais pas ce qui est à l'intérieur. C'est la propriété de Dieu, c'est la propriété du Saint-Esprit. Et ne croyez pas que le Saint-Esprit va vous remplir un tout petit peu. Il veut vous remplir complètement. Vous êtes prêts pour ça? Alors on le verra le 15-16. On en reparle le 16 au soir. Si Dieu n'a pas agi, c'est qu'on n'était pas prêt. C'est pas que Dieu n'a pas pu agir. Ah, on va pas entendre le Seigneur qui nous dit « Je suis désolé, j'ai oublié que c'était le 16. » Si Dieu n'a pas agi, c'est que nous n'étions pas prêts. C'est que nous n'avons pas entendu la parole de vie qui nous dit de dire aux eaux desséchées « Vivez ». Et cette parole sera, ce week-end est particulier, c'est pour ça que je mentionne, ça doit être comme ça tous les dimanches, mais ça sera comme ça tous les dimanches à partir du 15-16. D'ici là, on se prépare. Il faut que si une personne rentre dans l'Église qui n'a jamais entendu la parole de Dieu, elle soit touchée, qu'elle revive, ou qu'elle se sauve en disant « ce sont des fous, j'ai rien à faire avec eux ». Mais s'il n'y a pas l'une ou l'autre des deux, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on est sans effet. Ça doit. Jésus, il avait des ennemis et il y avait des gens qui étaient touchés et qui l'aimaient. Et pas des gens qui ont dit « Ah ouais, non, c'est pas mal, ça va. » On était fâchés contre lui ou on l'aimait. Et ça doit être comme ça. Et que l'Esprit de Dieu soit là. Et on verra le 16 après-midi, le 16 au soir, on fera le bilan. Et si Dieu n'a pas agi, s'il n'y a pas eu des âmes qui se sont données au Seigneur, c'est qu'on n'était pas prêt. Parce que le Seigneur a des gens dans cette ville qui doivent être sauvés. Il y a des eaux qui sont desséchées. Je sais qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça, il n'y en a pas tant qui sont intéressés, etc. Il y a beaucoup d'ennemis peut-être. Mais vous croyez que parmi les habitants de cette ville, il n'y a pas des gens qui sont à la recherche, qui ont soif de Dieu, mais qui ne le connaissent pas? Et pourquoi alors nous, on sera là le 16, juste pour recevoir et rien donner? Alors, on va voir, on va croire, et on en reparle le 16. Mais on ne l'oublie pas, ça. On prie et on fait le bilan le 16. Ok? Que le Seigneur bénisse sa parole.